Nous reprenons. Donc, je vous présente, voyons, qui c'est déjà ? Ah oui, Bruno Blankmann, bien sûr, qui est professeur de littérature française du XXe et XXIe siècle à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Il est l'auteur de nombreux articles et de 3 essais portant sur la littérature narrative des années 68 à nos jours en France. Alors d'abord, Les récits indécidables, publiés aux éditions du Septentrion en 2000 et apparemment réédité en 2008. Oui. Les fictions singulières chez Prétexte en 2002 et plus récemment, Lire Patrick Modiano, Armand Collin, 2009. Alors, un flash publicitaire. Il organise l'année prochaine un colloque à Cerisy, ici, en collaboration avec Barbara Havercroft de l'Université de Toronto, intitulé « Narration d'un nouveau siècle, romans et récits en France de 2001 à 2010 ». Alors vous êtes prié de vous précipiter pour vous inscrire. Naturellement, il y aura un comité de sélection très... S'inscrire auprès de lui, voilà. Et alors, les auteurs étudiés, liste non exhaustive, il y a Quignard, Echnoz, Guibert, Ernaud, Germain, Chevillard, Olivier Rollin. Il y a qui en dernier ? Ah oui, Antoine Volodi.
Ah bon ? Non,
il va nous parler de la charge de la brigade légère, l'humour dans l'œuvre de Volodi, dimension qui nous manquait jusqu'ici.
Oui, mais il y a un bon nombre d'échos avec ce qui a été dit déjà depuis le début de ce colloque. Merci Anne. Alors, on rit dans l'œuvre d'Antoine Volodi à plus d'un titre. Le titre, par exemple, de la romance de Mario Lins à la fin du post-exotisme, on dit leçon 11, signal d'alarme pour dromadaire malentendant. Ou le titre de la féerie de Lutz Bassmann, une variété hilarante de guerre atomique. Rire toxique comme un gaz, rire jaune comme ces fièvres exotiques qui ravagent les corps de personnages soumis à la question, rire blanc comme le non-rire du même Bassmann, ce rire par défaut, cité au rang de 294e titre de la littérature post-exotique, comme il l'était déjà dans la biographie comparée de Jorian Murgrève, rire rouge, comme ces étendards imprégnés de sang qui ne battent plus que pour les aurores de carton-pâte de quelques dictatures frondistes. On rit, donc, et l'on s'en veut de ce rire, I would prefer not, tant ce qui le déclenche est une collecte de sévices, mais on rit quand même, à gorge tailladée, comme s'il s'agissait, face aux histoires racontées, de la seule contenance possible, peut-être de la dernière contraction avant l'oubli. Si ce rire est communicatif, c'est d'une virulence humorale, rire sans joie mais d'attaque, qui ne relève pas de la convivialité festive, mais de la charge, au sens militaire, défense et offense en lui se recoupent, et littéraire de ce terme, il obéit à une rhétorique qui le canalise et diversifie ses modes d'agissement. Alors ce sont ces deux ordres de questionnement que j'aimerais aborder. Premier d'entre eux, qu'est-ce qui, chez Volodi & Co., guide le rire à l'œuvre? Comment relève-t-il d'un mécanisme complexe dans lequel interfèrent des pulsions d'abandon, rire nihiliste par lequel on se livre à la délectation morbide, et de résistance, rire d'insurrection au travers duquel on recharge par le choc sa propre capacité d'indignation? Le lecteur avisé gardera en effet à l'esprit cette incise d'Alto Solo. Mais si les larmes dissolvaient les contours de l'horreur, elles n'en modifiaient pas, en quoi que ce fût, la nature. En d'autres termes, en termes d'écriture, il est aisé de faire pleurer Margot en jouant du pathos, mais plus efficace, toute honte but, de la faire pouffer en la confrontant aux figures vives de l'horreur. Question de stratégie. Les larmes noient la perception de l'horreur quand le rire en accentue les traits et communique à lecture entre répulsion et révulsion quelque équivalent organique de cette horreur même. À l'esthétique lacrymale de la guimauve s'opposerait celle expressionniste de la grimace. Nulle échappée sentimentale, nulle édulcoration émotive, nulle catharsis à bon compte n'est alors envisageable. On ne se libère pas de l'horreur à coups de mouchoir. Vouloir en modifier la nature appelle des réactions plus conséquentes. À bon chat, bon rat, et parfois, Margot devient Rosa. Second ordre de questionnement, comment ce rire volodinien opère-t-il littérairement? Comment définir cet art de la charge qui, pour leur emprunter occasionnellement des armes, ne se reconnaît pas dans les genres consacrés, pamphlets, brûlots, ni dans les catégories et registres qui tantôt finalisent, tantôt modalisent le rire? Le comique, rien de foncièrement drôle dans ce rire. Ou la satire, nulle foi en quelque ordre circonstanciellement troublé qu'il s'agirait de restaurer par la moquerie. Sans doute ce rire contient-il en lui une part d'ironie, par sa capacité même d'attaque, sa plasticité parodique et ce principe de lucidité qui atteste d'un dédoublement de la conscience en mesure de se saisir elle-même pour sa plus grande mortification. C'est, on s'en souvient, l'acception romantique de l'ironie telle qu'elle oriente les évolutions d'un art et d'une littérature qui se posent comme modernes en s'auto-réfléchissant. Volodine en est, me semble-t-il, l'héritier en ligne directe. La dimension spéculaire est déterminante dans ses romans, elle est même saturante, sinon dévorante. La mise en abîme vire à l'aspiration par les gouffres, l'ironie s'auto-ironise et cet emballement de la belle mécanique des reflets a pour effet de les embrouiller tous dans une même indifférenciation des modèles et de leurs doublures, au grand dam de la dite conscience qui s'en retrouve un tantinet poché. C'est alors peut-être de l'humour que ce rire semble se rapprocher le plus. Non pas l'humour aseptisé des plaisanteries qui font pchit, mais un humour tendu vers le non-sens, un rire qui se présente comme non-rire, un post-exotisme qui s'affiche en 10 leçons, leçon 11, un roman qui commence par « c'est l'histoire d'un homme, de deux hommes, en fait ils sont trois ». Car il y a humour et humour. Antoine Volodine n'est pas Pierre Daninos, encore qu'on ne les ait jamais vus ensemble. Et Fabian Gonzalez offre peu de traits en commun avec le Major Thompson. Antoine Volodine n'est pas non plus Jean Giraudoux. Et la guerre de Troie et d'ailleurs a si bien eu lieu, ici comme partout, qu'elle est devenue un mode de vie pour ceux qui, dans l'œuvre, s'en sont provisoirement échappés. Guerre, défaite, décomposition, l'humour en question s'identifie, je cite, comme « humour du désastre », formule qui achève la notice de présentation de nos animaux familiers, autant dire qu'il n'offre rien de confortable. L'humour n'est pas conçu comme l'apanage de l'esprit qui constituerait le dernier garant de la civilisation, l'ultime rempart contre la barbarie, à la violence de laquelle il opposerait une intelligence supérieure passant par le jeu avec les valeurs civiles elles-mêmes. Il n'est pas raffiné comme un délice d'esthète, vilipendant l'ordre établi pour mieux le stimuler. Il est caustique, comme de la soude, détruisant avec lui tout corps constitué. En cela, sa fonction littéraire semble intrinsèquement ambivalente, s'il est vrai qu'il participe d'une stratégie visant à fonder le post-exotisme comme un univers de fiction autonome. Il est la signature même du désastre, son ultime validation, mais que sa puissance de corrosion agit sur l'œuvre elle-même, l'empêchant de se figer en un système post-exotique, donc de s'établir à son tour en corps pleinement constitué. Alors, le désastre est question de lieux qui inscrivent les marques d'une faillite de l'espace, topographique et mental. L'ouverture de nos animaux préférés présente un fond, je cite, de ruines, de bicoques effondrées sous des restes de toits, de portes démantelées et pourrissantes, de guenilles militaires. Une expression qui illustre métonymiquement la notion même de désastre en déclinant l'un de ses sens spécialisé dans le domaine de la lutte armée. Le désastre, c'est, avec ce sens, tout à la fois l'hyperbole d'une défaite et l'antonyme d'un triomphe. Et l'un des exemples canoniques en est la charge de la brigade légère, voilà, pour les amateurs de charades. Dans les romans d'Antoine Volodine, cette disparition des lieux et des objets s'insère dans une décomposition plus générale des différents éléments du vivant et de la matière. Tout se ramène, comme dans le nom des singes, à un réseau de motifs dans lequel s'amalgament la pâte, la fange, le caramélisé et le grumeau, le moite, l'humide, le moisi, le glauque, le vaseux et le purulent, sur fond, je cite, d'inexistence primitive et de présence invertébrée. Rien de moins invertébré, pourtant, que le corps du texte et son ossature narrative. Rien de moins caramélisé que la conscience des murgeaux diaboliques de l'écrivain qui organise, combine, détaille et varie cette scénographie du chaos. On, l'auteur, ses doubles, leur narrateur, les personnages, racontent de façon vivante un processus morbide déjà bien avancé. On crée une atmosphère de fiction animée en sa seule qualité mortifère, un comble du degré zéro qui serait quand même en voie d'être dépassé, comme le coma du même nom. C'est cette tension interne au récit qui suscite l'humour du désastre. Le pire étant toujours en cours, le seul recours reste le rire, forme majeure d'un désespoir lucide, quand la conscience organise en spectacle la marche à l'envers du temps et de l'humanité et dispose l'entropie en place de toute philanthropie. Toutefois, cet humour du désastre s'intègre dans l'univers post-exotique de façon explicite, de façon commentée par le narrateur, donc de façon résolument suspecte, comme frappé à son tour de déflation abyssale. Un effet de miroir l'encage à même les récits sous forme de médaillons horrifiques à répétition. Ce sont, je cite, les ricanements d'aliénés et accumulation de balafres et de ricanements dans la biographie comparée de Jorian Murgrave. Les ricanements et sarcasmes dans le post-exotisme, les ricanements amertume et ton goguenard dans nos animaux préférés, les ricanements amertume et grimace dans les moines soldats de Lutz Bassmann. Ces arrêts sur image, ces échos verbaux scandent le désastre des consciences sur fond d'hallucinations spectaculaires ayant pour objet quelques grands référents de l'histoire du temps qu'elle portait haut sa grande hache. Qu'est-ce que l'histoire ? Une bouche qui s'ouvre, une voix qui s'élève, des récits qui se transmettent. La voix, c'est ce qui articule l'histoire, la met en forme, lui donne sens. La bouche, c'est l'orifice d'où l'histoire jaillit, d'où elle se propulse comme une flèche. Mais, comme marmonnait l'autre dans sa barbe, l'histoire se répète, tragédie d'abord, farce ensuite. La grimace, c'est ce qui déforme la bouche. Le rire, c'est ce qui altère la voix. C'est cette bouche et cette voix qui, dans le troisième texte d'Avec les moines soldats, font l'histoire, l'instruisent depuis une image, je cite, qui produit du souffle, du bruit et du silence, qui se souvient du souvenir des autres. Cette voix est l'histoire, et je cite toujours, « On est accroupi dans l'image de l'histoire. » Voix oraculaire, à la manière de l'Alexandra de Lycophron, qui dit le futur comme du passé antérieur, mêlant dans son seul timbre la voix de tous ceux qui l'auront déjà accompli, inuiti, inuitam. C'est cette même voix qui, étranglée par le rire, déforme l'histoire dans les autres livres. Dans Alto Solo, c'est la pochade de cérémonie qui tient lieu à la fois de concerts, de meetings, de veldives, de chambres d'extermination, avec en arrière-fond caricatural, je cite, des pâtres rubicons et marquises déguisées en pastourelles. Et au premier plan parodique, un dirigeant ubiquiste, lui-même et son sosie, qui croassait un seul peuple, une seule culture, un seul spectacle, comme d'autres naguère, je cite toujours, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. On n'est pas loin, ici, des vertiges bouffons par lesquels le Modiano de la Ronde de Nuit, en 1969, ressuscite le Paris de l'occupation, livré aux mains des guapes miliciennes. Cette voix déréglée, on la retrouve dans Le Nom des Singes, avec la représentation burlesque des luttes de libération nationaliste et des insurrections révolutionnaires, avec d'un côté, je cite, « tel milicien non armé, débonnaire, dont on pouvait penser qu'il se campait devant le mur mitraillé, devant le guichet crasseux, avec pour fonction d'attendre l'inévitable rafale qu'un guérillero ferait partir. Et de l'autre côté, tel partisan, visionnant dans le cabinet de son psychiatre des images héroïques, des barques qui s'avancent, je cite, lentement en direction de Puesto Libertad, et dans les barques, les Indiennes murmuraient de vieilles pensées du temps de la guérilla, d'antiques slogans internationalistes, égalitaristes. L'événement historique devient cliché, le discours qui le commente, affabulation. Mais ce sont moins les événements eux-mêmes qui sont tournés en dérision que leur clichéisation, leur transformation progressive en phénomène d'imagerie vide de sens, propres à nourrir donc, par ce vide, une épouvante de pacotille, dans le premier exemple, Alto Solo, ou un héroïsme de BD, dans le deuxième, Le Nom des Singes. Le grincement de ton sous-jacent au récit constitue en cela une variante mimétique de celui de la chaîne du sens quand elle s'oxyde et qu'il s'agit de la décaper, fonction acide de l'humour, les clichés dérouillent, qui recyclent les événements majeurs d'un passé de moins en moins proche sous forme de vignettes pour films d'action, ou téléfilms recyclant eux-mêmes une première génération de stéréotypes issus de l'industrie cinématographique des westerns, Le Nom des Singes, des films d'espionnage, Lisbonne Dernière Marge, ou de science-fiction, Biographie comparée de Jordan Murgrave. Pampa, complot, réseau, manipulation, front oriental et commandement, poules internationalistes et dindons sociodémocrates, rafales de mitraillettes de guérilleros et de colonnes insurrectionnelles par ici, brigade Eva Rolnik du collectif 21 par là, comment recharger de sens les référents et les enjeux de la grande histoire géopolitique armée du XXe siècle, aujourd'hui pour beaucoup aussi hermétique que l'étiquette de la vieille Chine, est rendue comme illisible par les images dégradées détritiques auxquelles il se ramène. Comment résister à leur recyclage syntagmatique sous forme de récits de grande consommation, ceux dans lesquels Che Guevara devient une image pour t-shirt et les tenants des luttes armées, des doublons d'Indiana Jones. Comment en penser un nouvel usage paradigmatique, quelque chose qui en ferait des modèles, non pas au sens héroïque, mais au sens heuristiques du terme, des modèles de connaissances. L'humour est un soubresaut de la conscience face à cette lente déliquescence du sens de l'histoire, face à l'envasement d'une mémoire aussi labyrinthique, aussi chargée des fastes et des fraudes du passé, des dorures et des souillures des événements révolus qu'une Venise de l'esprit. Il est une méthode, une thérapie de choc qui, tirant cette fois-ci la barbichette du docteur Freud, s'approprie un certain nombre de ses modes opératoires. Et je rejoins ce que disait Franck par une autre voix. Il condense, métaphorise, déplace, décoiffe le logos. Il aide à composer un devenir fable de l'histoire qui, en extrapolant les données premières des événements, capte en retour quelque chose qui ressemblerait à leur esprit. Un esprit, des esprits en retour de la fiction. C'est là toute la dimension spectrale de l'œuvre, l'humour étant en quelque sorte la boîterie du spectre, l'ombre déformée de l'ombre, la doublure grotesque de la figure d'épouvante. Inventer, inventer, telle est la consigne du psychiatre fou à son patient délirant, du crypto-écrivain au pseudo-lecteur, dans Le Nom des singes, lorsque la mémoire des faits révolutionnaires se perd et que seul l'enchantement par la fable peut se substituer à eux. L'humour du désastre, c'est peut-être la puissance éprouvée du désenchantement à même la nostalgie simulée de l'enchantement. Savoir que l'histoire a déraillé avec le train des révolutions historiques et littéraires censées l'accomplir, mais en rejouer sans cesse le scénario en l'élevant au rang de catastrophe, je reprends ici le terme de Thierry, mais au rang de catastrophe depuis l'improbable deuxième siècle de Lisbonne dernière marge jusqu'au temps extrêmement futur de Jorian Murgrave. Scénographie de l'espace et dramaturgie de la conscience, l'humour est bel et bien un spectacle. Il tient lieu de vision en même temps qu'il déréalise cette vision, la ramenant au statut d'épiphénomène dégradé, un effet de récit parmi d'autres, une ruse grossière de l'esprit de fiction qui sécrète du sens comme une araignée ourdit sa toile pour conjurer le vide. De cette ontologie de l'absurde, l'humour est à la fois l'agent et l'antidote, ce qui lui résiste par la lucidité dont il atteste, ce qui l'accélère par la perversité dont il fait acte. Comment l'appréhender alors depuis son tissage même, dans la petite, grande trame des multiples textes? Le seul plan de la séquence narrative permet d'en saisir le jeu qui présente, parmi d'autres, trois opérations principales concernant le traitement de la thématique, des mots qui l'articulent, des registres qui la modalisent. Et c'est ce que j'aimerais étudier maintenant en micro-lecture. Il n'est pas rare qu'une thématique naisse à elle-même par la dérision de ses motifs élémentaires. Ainsi, sur le mode mineur des histoires d'amour, la lente décomposition des liens de couple est-elle analysée avec la délectation de l'entomologiste observant le papillon qu'il vient d'épingler. Dans Lisbonne dernière marge, ces liens sont drapés dans un échange idéologique musclé. Quel puits de science subversive que ma toute charmante, railla-t-il. Rien ne m'échappe, connard de flic, dit-elle, ni les séduisants doggissimes du Sicherheitsgruppe, ni les initiales des groupuscules, ni leurs brochures, ni leurs tracts. Les amants sont promis par un narrateur peu amène à une durée de couple et une flamme conjugale égale à celle, je cite, du canon vieux de deux siècles, sur lequel il s'appuie en se parlant tout en regardant le Tage, et à une je cite encore, succession écumante de désespoir et d'années devant eux, la promesse d'une souffrance ignoble et vaine. À chacun son écume, le couple qui se dispute comme le fleuve qu'il regarde, à chacun son boulet, pour le canon comme pour le couple, à chacun son canon, pour le couple qui s'aime et s'entretue, comme pour l'écrivain qui joue ici avec celui, le canon, de la rhétorique sentimentale et de ses analogies aléatoires, quoique massives. Même désastre thématique indûment délectable si l'on passe du mode mineur des conflits conjugaux au mode majeur des crises historiques. Soit la séquence suivante, extraite du port intérieur, qui confronte deux voisins, chacun isolé dans son appartement, une vieille chinoise amateur d'opéra et un pauvre bougre victime d'un tortionnaire à domicile. Je cite. J'aurais dû identifier l'opéra, ou l'extrait d'opéra dont Madame Fong et moi nous délections, séparés par une porte rouillée et 2000 ans de tradition peu miscible, elle, accroupie sur son tabouret nain, au milieu des poubelles qui encombrent la venelle du Taraféro, et moi, sur ma chaise, encerclée par les morts inutiles et les souvenirs. J'aurais dû citer le titre de l'œuvre. C'est ainsi que l'on procède en littérature. Seule la misère, la solitude, la corrosion par le temps tiennent lieu d'expériences communes et de monnaies d'échange à des êtres et des civilisations que tout sépare, que tout cloisonne et qui voisinent sans communiquer. Ce que l'écriture met ici en relief, comme une mécanique de la cruauté agissant à même celle bien huilée du texte, avec ses effets de symétrie, d'antithèse et sa structure en chiasse, c'est le vieux foyer d'inhumanité que toute société civilisée couve et recouvre, comme l'opéra recouvre ici les cris de celui qu'on torture et résonne fort, résonne mieux au mur nu de la vieille chinoise, et comme la littérature officielle réfère de préférence les titres des opéras plutôt que les ordures des ruelles. Les arts et les lettres, de remarquables couvertures, à tous les sens du terme, qui vous tiennent chaud, vous endorment, vous étouffent. L'humour, ici comme ailleurs, participe d'une vision du monde qui pousse le pessimisme jusqu'au nihilisme. Rien ne résiste à sa causticité, ni l'humanisme de façade, expédié une fois de plus aux poubelles de l'histoire, ni l'esthétisme de paillettes, renvoyé à ses compromissions, ni l'internationalisme d'estrade, confronté à la résistance du bon vieux principe d'étrangeté, sinon de défiance, des peuples les uns envers les autres, quand seule la misère l'aurait en partage. Unité élémentaire de tout récit, les mots constituent aussi pour Volodine des chargeurs humoristiques qui font exploser le sens convenu de la fiction et lui confèrent parfois son allure quelque peu déjantée. Ainsi, la déclinaison des noms d'oiseaux dans Alto Solo fonctionne-t-elle comme une contrainte qui permet au récit de camper sur une ligne mi-poétique, figure des hommes-oiseaux, mi-politique, histoire d'une chasse aux espèces indésirables, donc menacées. Cette contrainte permet de caler la progression du tragique sur la ponctuation du ludique. Jeu syleptique avec des expressions comme, je cite, « perdre des plumes » et « poule mouillée » ou avec de simples mots dont les connotations changent du tout au tout selon qu'on vise par leur emploi l'animal d'origine ou l'humain de substitution, un perroquet, une grue. Parfois même, le jeu polysémique semble générer tout ou partie de la situation romanesque et de son décor. Que, dans Le Nom des singes, le cabinet du psychiatre soit celui d'un ancien dentiste tient, sans nul doute, aux vicissitudes d'une révolution avortée en dictature, mais tout autant au fait que ce local ait quelque vocation naturelle à recevoir des patients qui, comme le héros, y racontent leur passé en mentant comme des arracheurs de dents. Pour le lecteur un peu lent, qui ne l'aurait pas de lui-même extraite, l'expression apparaît, page 91. Il est vrai, pour justifier la lenteur, que l'écrivain se plaît à brouiller les pistes en composant une mini-séquence diététique depuis une expression semblablement ambivalente. « Vous avez un sale teint, Golpiès, et vous savez pourquoi ? Parce que vous vous empiffrez de reptiles et de batraciens. Mangez des fruits, évitez la tortue, l'iguane, la couleuvre, la grenouille, le lézard, évitez le varan rôti. » À la confrontation du faux psychiatre vrai malade et du faux malade vrai affabulateur, se superpose ici, comme une doublure linguistiquement farcesque de la situation post-révolutionnaire, la confrontation de l'homme qui ment comme un arracheur de dents et de celui qui refuse d'avaler des couleuvres. Avec, vous le voyez, une belle cohérence dans le double jeu de mots, puisque de la dent à la couleuvre à avaler, il n'est bien sûr qu'un cheminement de mâchoire à accomplir. Alors, on pensera peut-être que tout cela est un peu tiré par les racines. J'arrête. Hein, Dès la biographie comparée de Jorian Murgrave, pourtant, les jeux de mots fleurissent et répondent à la bonne vieille loi du calembour, cette fiente de l'esprit qui vole, selon Victor Hugo. Plus ils sont mauvais, plus ils sont réussis. Alors là, je vais répéter, mon effet a complètement été sapé par Thierry tout à l'heure. Vers la fin, disait-il, la plus grande confusion se mit à régner, en un seul mot. Je, lui-même, a double sens, si l'on a rétrospectivement à l'esprit l'importance du motif arachnéen dans le texte toile que sécrète et qui génère l'écrivain. C'est préparer le terrain à nos animaux préférés, dont la dominante caricaturale appelle les à peu près phoniques et sémantiques, comme ce désintérêt, je cite, des clairs, C-L-E-R-C-S pour l'obscur, comme cette preuve par nef, ou comme cette mauvaise pente qui donne son titre au dernier chapitre et le motive doublement, métaphoriquement et topographiquement, puisque le malheureux éléphant qui en est le héros voit ses jours écourtés en s'enlisant dans un marécage. Les jeux de mots constituent, dans l'œuvre de Volodine, une variante du jeu avec les mots destinée à faire grimacer la langue et à creuser l'écart entre la nature foncièrement désespérée du propos et celle désinvolte, c'est-à-dire désenchantée, des événements, de leur teneur, de leurs effets, propre à une langue qui, d'homophonie en à peu près, semble elle-même se décomposer, ne fait plus l'histoire et, si elle en tient lieu, eh bien, la défait plutôt qu'elle ne la compose. Le verbe ne conçoit plus et n'accouche plus d'événements esthétiques ou politiques qui l'impulseraient par sa magie, mais reproduit en mode interne, comme dans une chambre d'écho capitonnée, des événements verbaux qui se confondent, un récit performance qui constitue, en circulant des lèvres d'Ingrid Fogel à la bouche de Bruegel via la trompe de Wong, une seule et même autofiction grotesque de l'histoire. Grotesque, la question des registres de l'humour se trouve alors posée par un terme qui pourrait définir le principe d'héroïsation propre à la littérature post-exotique, un grotesque amputé de son gémeau contraire, de sa noblesse d'antithèse, le sublime, quand bien même il en éprouve encore, depuis cette amputation même, les démangeaisons, et qui, toute vision romantique de l'histoire achevée, confère sa dominante monstrueuse à un univers dont les créatures hésitent entre les bas-fonds et, je cite, le fond du glauque, entre des espaces en ruine et des labyrinthes souterrains, entre des espèces humaines et animales se décomposant et recomposant au gré de synthèses aléatoires. Ainsi, une même créature aux avatars multiples est-elle susceptible, dans un même récit, de déblatérer comme un chameau, coasser comme un corbeau, barretter comme un éléphant et glapir comme un renard? Le jeu parodique accompagne alors les récits mezzovoque, Lisbonne dernière marche, ou à plein rire, nos animaux préférés, et forme une méthode subtilement différenciée d'investigation de l'horreur par sa mise en ton contrasté. Le télescopage des traditions romanesques provoque une dynamique du disparate génériquement monstrueuse. Alto Solo est un hybride de roman historique à dominante guerrière, de fable animalière à dimension politique, de roman d'aventure au relent de western tequila. Les dispositifs parodiques permettent de tourner en dérision un certain nombre de valeurs dans lesquelles l'humanité traditionnellement se reconnaît, se console, se projette, entre autres les structures de parenté, filiation, transmission, perpétuation de l'espèce, mais aussi les systèmes de pensée qui garantissent ces structures, anthropologie, psychanalyse, et les récits qui en assoient l'autorité, historiographie, hagiographie, chronique, annale. Sa majestable Balbutiard 315, le cryptocrabe obèse de nos animaux préférés, paralysé par ses propres rêves, accouche ainsi d'un jeune mâle qu'il tue en deux coups de cuillère à pince, à peine sorti de l'œuf, avant de se repaître goulûment de ce fiston festin. La parodie fait ici marcher les grandes mythologies civiles d'hier, le chaudron de Thieste, et d'aujourd'hui, le complexe d'Édipe, les fait marcher à la manière, bien sûr, d'un crabe, c'est-à-dire de travers. Mais cette veine parodique s'inclut elle-même dans une stratégie de la dérision plus vaste, dont elle constitue en quelque sorte l'écume ou la bave textuelle. Je cite, une bave que dans la langue qui ici sert de langage, nous appelons parfois l'intelligence. Nos animaux préférés s'intègrent en effet dans une suprastructure littéraire, un recueil de chapitres collectés sous le terme générique d'entrevoûte, l'un de ces genres nés du et dans les ruines des genres anciens et qui rassemble des nouvelles imaginées par les personnages anonymes ou hétéronymes traversant les autres romans. Je cite, détenu oublié de tous, révolutionnaire non repenti, mettant eux-mêmes en voie leur sinistre destinée sous une forme grotesque. Le genre, inventé de toutes pièces, dont relèvent nos animaux préférés, est donc une production de la fiction volodinienne à l'échelle de l'œuvre, autant qu'un de ses générateurs à celle du livre. Le récit parodique, écriture au second degré, s'insère ainsi dans un système de fiction dont il constitue, mais à un autre niveau, un degré différemment second. Joue ici, en mode externe, d'un ouvrage publié isolément, à un ensemble d'ouvrages par rapport auquel il est mis en perspective, le même phénomène qui agit en mode interne dans chaque ouvrage, avec tantôt la combinatoire, tantôt la superposition d'énoncés appartenant à des stades différents de fiction, à des instances de création, tout à la fois dénivelées et emboîtées entre elles, quand les ouvrages en question incluent des extraits d'œuvres attribués à leurs personnages. Biographie comparée de Jorian Murgrave ou Lisbonne dernière marche en offre le modèle. À cela s'ajoute, comme un tour d'écrou supplémentaire, qui, loin de visser le système, le ferait au contraire dévisser à l'infini d'une structure folle. Emballé au creux du vertige, le métatexte critique, assignant à chaque unité comme à chaque personnage romanesque sa place et sa fonction dans l'œuvre collective. Ainsi, la vocation à l'humour du désastre par rapport au post-exotisme, selon un protocole qui intègre ce métatexte dans l'œuvre elle-même, parmi ses productions discursives et ses voies autorisées, et en fait l'une de ses productions fictionnelles, mais à un degré toujours autre. Ces degrés de l'œuvre, et des œuvres dans l'œuvre, et de l'œuvre des œuvres dans l'œuvre, et du commentaire œuvré de l'œuvre des œuvres dans l'œuvre, Unso weiter. S'ils s'agencent avec complexité, d'une façon à la fois ramifiée et stratifiée, ne constituent donc aucune échelle propre à édifier la dite œuvre et lui permettre de s'élever, d'atteindre à quelque mise en perspective substantielle, depuis l'exploration victorieuse de ces gouffres, marquant ainsi, par l'avènement spéculaire du livre pur, le triomphe d'une conscience se tenant droit dans ses livres et comme au garde-à-vous de ses formes. Telle l'échelle que Monge et Fuchs, dans « Avec les moines soldats », découvrent en errant dans les souterrains d'une cave, à moins qu'il ne s'agisse d'un rêve. Ces degrés, je cite, « vermoulus » n'inspiraient pas confiance. Les montants branlaient. Il faut dire qu'ils se trouvent, comme Brown et Cusco, trois chapitres plus tard, au bas de cette échelle. « Et nous ?» dit soudain Cusco. « Quoi, nous ?» demanda Brown. « Nous, dans l'échelle humaine, on est en dessous de quoi ?» lança Cusco. Comme Brown ne répondait pas, Cusco se remit à parler au crabe, mais cette fois à voix si basse que personne sinon lui-même ne pouvait l'entendre. À trop vouloir faire ses preuves, à trop se projeter dans des modèles spéculaires, la conscience se prend à ses propres pièges. L'humour serait ce qui accélère le jeu spéculaire jusqu'à le dérégler et tourner en dérision jusqu'à ses apories. L'ironisation de l'ironie par elle-même, ou encore, pour reprendre à notre façon les apologues de nos animaux familiers, le crabe de l'esprit créateur, l'esprit de finesse, qui se paralyse lui-même à trop vouloir inventer de scénarios pour se libérer, ou à défaut, le cul éléphantesque de l'esprit souverain, l'esprit de géométrie, qui a trop prospecté de sa trompe ce qui le menace en avant, s'enlise, faute de savoir ménager ses arrières. Alors, pour conclure, du microtexte, les séquences narratives, au macro-récit, chaque ouvrage, comme du macro-récit à la méga-fiction, l'ensemble des ouvrages, le post-exotisme, l'humour volodinien procède à la fois par contamination, par gradation et par dégradation. Cet humour relève de l'insolite, parfois à l'image de celui d'un Henri Michaud, quand il normalise des notations décalées, le reflet d'un couple amoureux fondu dans le bric-à-brac d'une vitrine de quincaillerie, par exemple, ou quand il dresse une nomenclature hautement fantaisiste de personnages n'appartenant à aucune espèce à ce jour répertoriée. Ce goût poétique de l'insolite, Manuela Dreger, première manière, ne le dédaignait pas quand elle signait pour de jeunes lecteurs des histoires de radeaux volant dans les airs, conduits par un hibou et véhiculant un professeur de chou, le radeau de la sardine. De l'insolite, cet humour bascule volontiers dans l'inconvenant, humour noir qui transgresse les interdits élémentaires, humour désacralisant les grandes mythologies, parmi lesquelles la littérature, dont toutes les instances esthétiques et culturelles, pratiques génériques et institutions, champs historiques et horizons esthétiques, sont mises en jeu fictionnellement dans le dispositif post-exotique. A commencer d'ailleurs, et cela dès le premier roman publié chez Minuit, par les critiques littéraires méchamment trucidées, raison pour laquelle d'ailleurs, sitôt cette conférence achevée et feignant d'aller admirer le potager, je fuirai sournoisement par une brèche du château. L'inconvenant c'est aussi retourner le rire contre ceux dont c'est, dit-on, le propre, les humains, forcer à dessein le trait anti-humaniste en inventant des personnages pour le plaisir de mieux les charger. Ainsi, du dictateur d'Alto Solo, l'acteur médiocrement célèbre des années 40 ou 50, l'éternel second rôle du cinéma de deuxième catégorie, en qui, aujourd'hui, chacun pouvait identifier son droguiste, son charcutier ou son leader. Ainsi aussi, on en a parlé, je crois, hier, de la Newkey, cette, je cite, « mercenaire de la parole », capable, je cite toujours, de théoriser sur l'art et de philosopher sur le destin des peuples, et dont la figure, celle d'une personnalité médiatique, se ramène à un effet de corpulence ciblée quand elle, je cite de nouveau, bombe ses chairs sensibles à l'épopée et fait acte en pérorant d'une emphase pectorale, je cite toujours, tout en rajustant une bretelle de son soutien-gorge. De cet inconvenant, l'humour bascule alors dans l'incongru, cet humour de la débine, qui n'est pas sans rappeler cette fois celui de Beckett, entre autres quand Lutz Bassmann multiplie, dans Avec les moines soldats, les dialogues décalés entre deux personnages à la Vladimir et Estragon, ou les séquences constituant autant de variations sur les motifs de la régression et de l'enfouissement, seule qualification possible de quelque humanité résiduelle. Ainsi diffus, l'humour permet de penser le lien établi entre une écriture et ses registres, tels qu'ils agissent par dissonance à différents niveaux du texte, entre un imaginaire et ses imageries romanesques, marquées à l'encre d'une humeur noire, d'un principe de mélancolie grotesque, entre une vision du monde et ses postulats implicites, placés sous le signe de l'énergie nihiliste et d'une fascination véhémente pour l'effroi. Je vous remercie de votre patience.
Merci Bruno, tu nous as fait rire, mais de façon tout à fait légitime, dans la mesure où l'œuvre même si nous pouvions en douter peut-être au départ, y invite. Et je crois que tu as eu tout à fait raison de nous rappeler que si les larmes brouillent la vue et brouillent justement les contours de l'horreur, le rire au contraire permet d'aviver les arêtes et permet d'aviver la vision. Et j'ai été très frappée parmi les différentes références que tu as données. Bon, certes, nous avions besoin qu'on nous rappelle que Volodine n'était ni Daninos ni Giraudoux, mais parmi les autres références, j'ai été frappée que tu cites et le Festin de Thieste et aussi l'Alexandra de Lycophron, qui est donc, comme une réédition récente le rappelle, c'est une traduction de Pascal Quignard, et c'est, nous sommes dans l'après-guerre de Troie, et on pourrait dire dans l'après-guerre noire. Et je crois que ce texte, qui est effectivement un texte à la fois obscur et qui charrie de l'effroyable, donc où l'humour n'est peut-être pas tout à fait évident, c'était important de le mettre en contrepoint avec ce que tu as montré, parce qu'effectivement il s'agit de quelque chose noir, pour citer un autre titre, et en parler, non pas à la légère, mais avec l'humour, avec les outils de l'humour, nous dit vraiment quelque chose de ce noir, justement. Bon, je donne la parole à la salle. Oui, Jean-Pierre Vidal.
D'abord, je vous remercie pour cette communication que j'ai entendu crépiter partout dans mes neurones. Et tout du long que je vous entendais parler et définir l'humour et surtout son rôle dynamique à l'intérieur du texte, j'entendais aussi, vous nous invitiez à l'intertexte au tout début, même ironiquement, j'entendais un autre nom résonner et un autre texte aussi. Et je vais en parler en partie dans ma communication, donc je n'épiloguerai pas, mais je vais vous poser une question à partir de ça. Tout ce que j'entendais résonner, surtout dans le fonctionnement du texte, dans son rapport à l'humour, c'est l'autre Hermon, bien sûr. Et je voyais se dessiner cette figure qui est dans le texte de l'autre Hermon, où à un certain moment, il est dit « L'homme qui ne savait pas rire, en parlant de Majorat, pour se donner les apparences du rire, s'ouvre les commissures des lèvres avec un rasoir et se regarde ensuite dans le miroir et il s'aperçoit qu'il ne rit pas. Et ça, à mon avis, c'est comme une image majeure du texte de Votre-Hermont, parce que je crois qu'on a la même chose que le rire. Il y a cette espèce d'auto-représentation du fonctionnement même du texte. Et autrement dit, ce qu'il dit, il le fait. Mais il le fait de telle façon qu'on est comme piégé, qu'on a l'impression de ne plus savoir où on est. Et j'en arrive à ma question. Donc, est-ce que cette désorientation perpétuelle que le texte produit ne correspond pas un peu à sa dimension militante, dans la mesure où, par exemple, dans la pensée grecque, la vérité, aletheia, c'est négatif, c'est l'absence de sommeil, c'est-à-dire la veille, c'est-à-dire la vigilance.
Oui.
Et donc l'inquiétude qui est propagée vers le lecteur par ce texte est en même temps sa vertu politique, si je puis dire. Et donc, pour en revenir à Votre-Hermont, disons une différence majeure que je voyais entre le texte de Votre-Hermont et celui de Pelladine, c'est celui de la présence plus ou moins proche de l'histoire. Parce que, bon, dans le texte de Votre-Hermont, il faut quand même faire pas mal de contorsions pour voir un référent historique. Hein. On peut y arriver. Mais alors que chez Pelladine, au contraire, ce référent historique est au premier plan.
Oui, alors deux éléments de réponse à votre question et à vos remarques. Votre-Hermont, alors je n'ai pas ouvert la boîte à intertexte de façon exhaustive, mais je pense que ça s'intègre effectivement pleinement et que cela renvoie à ces quelques réflexions que j'ai proposées autour de la notion du récit spéculaire, de cette littérature spéculaire qui finalement se saisit elle-même, s'auto-saisit, mais sur le mode de la distanciation. Et je pense même qu'il faudrait, si l'on engage le terrain sur cette discussion, remonter avant même Votre-Hermont à un texte qui est un roman de Victor Hugo, et qui s'intitule L'homme qui rit, où l'on a véritablement cette esthétique de la grimace qui est incarnée par le personnage de Gwynplaine, avec au cœur même de ce roman l'espèce d'interlude théâtral que jouent les personnages et qui s'intitule Chaos vaincu. Alors, il y a effectivement une espèce comme ça de jeu de reflets qui renvoie à ce que j'ai appelé ce devenir d'une conscience pochée. Et puis, alors, autre élément de réponse que j'ai déjà oublié parce que je ne me souviens plus.
La valeur militante.
Ah oui, la valeur, voilà, oui. Je pense que vous avez effectivement tout à fait raison, il y a une stratégie de l'égarement. Il y a aussi, me semble-t-il, et ça entre pleinement dans le cadre du jeu avec les hétéronymes, et puis aussi de la charge politique, avec tous les guillemets qu'on veut, mais qui est bel et bien présente dans cette œuvre, il y a aussi le jeu de la clandestinité, le jeu de la dissidence, le jeu des minorités qui ne peuvent être agissantes que si elles sont là où on ne les attend pas. Donc alors, bien sûr, on n'est pas dans l'ordre de la projection référentielle, mais on est dans l'ordre peut-être de ce qui relèverait d'une structuration analogique des ouvrages par rapport à ce qui était ces valeurs, ces consignes, ces principes renvoyant hors du seul champ littéraire, il me semble.
Frédéric ?
Oui, alors pour veiller peut-être sur la question politique, par rapport à ce qui ressortait je ne sais plus très bien si on se tutoie ou si on se voit.
On peut passer de l'un à l'autre, ça dépendra de la nature de ta question.
semblé percevoir quelque chose qui m'intéresse particulièrement dans la réflexion sur le régime artistique de cette œuvre, dans la fonction critique de l'humour par rapport à justement un contrepoint par rapport à quelque chose qui serait de l'ordre du larmoyant et du pathos, ou alors de l'esthétisation de la catastrophe, qui me semble vraiment important, étant donné justement tout ce qui est la réflexion de témoins de catastrophe sur un refus d'un régime artistique qui serait de l'ordre du registre de l'esthétisme justement, et d'un refus de faire pleurer sur son sort des victimes. Un refus des victimes de faire pleurer sur son sort. C'est pas en faisant pleurer sur son sort qu'on va faire comprendre ce qu'on a vécu. Et il me semble que dans le rire comme critique du pathos, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme en héritage dans le post-exotisme, comme vous le dites. Ça, c'est une proposition. D'autant que ça rejoint aussi quelque chose sur une critique de l'esthétisme qu'on trouve aussi dans l'après-nazisme, chez Brohr, par exemple, enfin, déjà pendant, mais encore après, sur la critique du kitsch aussi, le pathos pouvant s'articuler là-dessus. Voilà.
Oui, alors je te rejoins effectivement, d'où l'emploi du tutoiement, d'une part sur le refus de la posture victimaire. Il me semble que ça c'est quelque chose de très très important, et c'est quelque chose qui permet de façon plus générale peut-être de faire le lien entre l'œuvre de Volodine et des œuvres qui travaillent sur cette question du témoignage de façon peut-être plus directe, plus ouverte, plus explicite. On y avait fait référence aussi, je crois, hier ou avant-hier à Modiano. Si on prend Dora Bruder, ce qui définit Dora Bruder, c'est justement le refus de la posture victimaire, c'est la réfractaire. C'est celle qui fugue à une époque où il fait bon se cacher pour éviter qu'on la prenne et qu'on la déporte. Donc il y a ce refus effectivement de la posture victimaire qui me semble, dans le cas de l'œuvre de Volodine, d'autant plus marquée, d'autant plus manifeste que c'est une posture pleinement médiatique. Les médias aiment beaucoup les victimes qui le sont par leurs larmes, par leur sang, exhibés, si possible, en heure de grande écoute, quand on est en train de dîner. Donc il y a véritablement ça c'est un premier point, cette fonction-là, qui serait peut-être une fonction politique, mais à un autre niveau de l'humour. Fonction politique par rapport au traitement actuel de la figure des victimes et de la mémoire historique plus généralement. Qui est spectacularisé dans le sens du pathos et de la bonne conscience, de l'humanitairement correct. Et puis le deuxième point, par rapport à cette question qui me semble effectivement très importante de l'esthétisation de la catastrophe, il n'y a pas, bien sûr, ou plutôt il y a parodie de ce qu'on pourrait appeler, pour faire vite, une esthétique du grand guignol. C'est-à-dire que tout ce qui est le traitement grandiloquent de la posture physique, de la mise en scène des victimes d'atrocités, tout cela existe, mais est cassé, justement, par l'humour. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas esthétisation de la catastrophe au sens où il y aurait recours à des ressorts qui sont ceux de l'épouvante, mais il y a peut-être expérimentation de ce qu'on pourrait appeler alors une contre-esthétique, ou une esthétique mineure, ou une esthétique du contrepoint, qui est celle de l'humour, permettant justement de faire jouer non pas la compassion, mais l'indignation, par le rire.
Oui, Audrey, puis oui.
Moi, ma question, ma proposition, ce serait... Est-ce que Robert Vidal parlait d'une fonction de vigilance de l'humour? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une fonction de résistance du texte par rapport à l'élucidation de son fonctionnement, d'une part, une résistance à la demande de sens du lecteur, parce que en dernière instance, l'humour c'est toujours ce qui désamorce le sens. Et est-ce que dans le même ordre d'idée, par rapport aux questions qu'on s'est posées concernant la dimension idéologique de l'œuvre hier, est-ce que c'est pas non plus une manière de relativiser une forme de monolithisme idéologique, une manière de là encore, de subtiliser les assises.
Oui, je rajouterais juste une formule ou un complément peut-être d'analyse à ta proposition. C'est effectivement une façon de résister à la volonté d'élucider le sens, mais c'est peut-être plus dirigé ou plus dirigiste, je ne sais pas. C'est refuser une certaine lecture qui ferait du texte une sorte de conte philosophique pour les temps actuels. Ça n'est peut-être pas refusé, on ne peut pas refuser de toute façon la machinerie herméneutique, elle se met en place toute seule. Franck en parlait dans l'entretien tout à l'heure. Mais c'est plus peut-être la volonté de dégager le texte d'un risque de lecture qui le cantonnerait à une certaine forme de littérature mineure, mais au mauvais sens du terme. Hein, le conte fantastique, le conte philosophique, la variation drôlatique sur des histoires qui ne le sont pas, etc., etc. Donc j'aurais plutôt tendance à comprendre l'une des fonctions de résistance de l'humour de cette façon.
Antonin, puis Pierre, puis Madame Einstein.
Votre exposé m'a beaucoup intéressé à cause des différentes modalités de l'humour que vous avez dégagées à l'intérieur de Levin. Ça m'a rappelé quelque chose qu'on a aussi discuté ces derniers jours sur la position du lecteur lorsqu'on vit des personnages. Il y a un humour qui... dans le rire de quelqu'un, il peut y avoir une dimension de cruauté, de mise à distance. Enfin, c'est peut-être une des premières choses qui est mobilisée. Et ce que je trouve finalement étonnant, c'est qu'on a un humour qui fonctionne ici par sympathie. C'est précisément pas un humour qui va créer de la mise à distance qui va étranger les personnages dont on rit, mais il me semble que c'est une modalité assez originale par rapport au rire du comique où on rit de celui qui tombe, de celui qui dit une bonne banane, et qui a cette dimension de cruauté. Et puis il y a une autre chose que peut-être que je vois moins bien comment formuler, mais qui est la... les espaces, est-ce que l'humour, est-ce que vous avez l'impression dans le fond que l'humour contamine l'ensemble des espaces du texte? Est-ce qu'il est localisé comme des moments où on respire est-ce que ces moments de j'ai l'impression que vous alliez dans le sens de interpréter ces moments de respiration comme quelque chose qui se répond et qui affecte la totalité du texte. Est-ce qu'il y a néanmoins des moments où on n'arrive pas à rire, qui restent non affectés du tout par les lieux où on peut isoler l'humour dans le...
Voilà, alors c'est une question que je m'étais posée et à laquelle j'avais choisi de ne pas répondre, ne sachant pas véritablement quelle réponse apporter. Je vous remercie donc profondément de me l'avoir posée. Mais effectivement, est-ce que c'est un humour dilué ou est-ce que c'est un humour sectorisé? Alors bon, je pense qu'effectivement, il y a quand même une très grande plasticité de cette ressource et dans sa localisation et dans ses modalisations, qui fait qu'on ne peut peut-être pas finalement trancher de façon... alors j'ai bien conscience de faire une réponse à l'auvergnate, mais je ne peux pas dire mieux à l'heure actuelle. Par contre, sur la question de l'humour qui fonctionne par sympathie, je vous rejoins, mais partiellement seulement. Je trouve que c'est aussi un humour qui fonctionne, peut-être même avant tout par antipathie au sens premier du terme, c'est-à-dire qui est là pour casser les effets d'identification, les effets d'émotion, et qui est un humour qui... Alors, je comprends ce que vous avez voulu dire, c'est-à-dire c'est pas un humour de la méchanceté gratuite. Et il ne l'est pas, me semble-t-il, ou il l'est d'autant moins que c'est un humour qui nous implique dans notre propre rire au-delà de l'autre lui-même. C'est-à-dire qu'on est, on est aussi, en quelque sorte, on fait un avec ce dont on rit, même si on s'en défend. Mais j'arrête de parler de moi.
Pierre.
Juste. Oui, alors, quand on fait, comme vous l'avez fait avec Rio, des citations comme celle de passage où effectivement la farce surgit, soit par jeu de mots, parce que la situation est vraiment comique, on se rend compte qu'il y a effectivement un humour un peu ludique dans l'œuvre de Volodine. Mais quand on prend l'ensemble de l'œuvre, il me semble qu'il y a un autre type de rire, plus proche de celui que Bataille évoque dans l'expérience intérieure, qui est le rire de la démesure, hein, le rire du dépassement des frontières, et qui place, hein, c'est une expérience qui place à côté de celle de l'extase, à côté de celle de l'ivresse, un rire qu'on trouve aussi dans le bavard des forêts, c'est-à-dire quelque chose qui va bien au-delà de l'humour au sens propre, c'est-à-dire bon, cette espèce de détente dont on parlait, là, qui produit un façon de désamorcer quelque chose de trop lourd. Et c'est un rire, vous l'avez dit peut-être à quelques reprises, démiurgique ou démoniaque. Et il me semble qu'il y a ça aussi présent dans l'ensemble d'Antoine Volodine, et qui rappelle peut-être plus encore l'humour, entre guillemets, d'un autre élément, ou celui d'un Becker, une coloration totale de l'univers qui nous amène à cette espèce de rire. Excessif, enfin, je dirais pas excessif, mais ce sentiment de démesure qu'on peut éprouver que dans une forme de rire démiurgique ou démoniaque. Oui. Donc, un autre registre que celui du ludique, qui est présent quand même dans l'œuvre.
Oui, tout à fait. Je n'ai absolument pas voulu cantonner les effets de l'humour dans l'œuvre à du ludique. Ce serait un contresens. Et je pense avoir été relativement clair, enfin, du moins je l'imaginais, sur ce point. C'est un ludique qui a toujours une fonction. Par contre, effectivement, et c'était le sens peut-être de la référence à Beckett, il y a ce rire métaphysique, je ne sais pas comment l'appeler différemment, qui est un rire, alors rire de la démesure, et c'était aussi le sens de certaines images que j'ai employées sans les approfondir, lorsque j'ai parlé d'un rire organique. Ou d'un rire qui fonctionnait par virulence humorale. Parce qu'il y a aussi un sens qu'on oublie très souvent, un sens étymologique, qui est, enfin, il en a plusieurs, qui est celui de la notion d'humour, qui est le terme d'humeur. Et l'humeur, c'est par principe ce qui échappe au corps et ce qui rattache l'humain à des énergies vers lesquels finalement il se ramène ou il est reconduit par des manifestations qu'il ne peut pas réprimer. Alors il y a effectivement, c'est aussi peut-être le sens du terme contraction que j'ai pu employer. Il y a donc effectivement, je vous rejoins, toute une part de ce rire qui relèverait du rire de la démesure, du rire métaphysique, même si cette notion est sujette à caution elle-même. Mais il y a aussi un rire qui, me semble-t-il, est un rire, au bon sens du terme, formel, c'est-à-dire un rire qui obéit à un programme rhétorique que l'écrivain se fixe et applique, et qui domine, non pas simplement dans des micro-expressions qu'on peut coller les unes après les autres, mais dans l'ensemble d'un livre, comme c'est le cas, par exemple, dans Nos animaux familiers. Donc il y a ce double statut avec lequel, bien sûr, l'écrivain joue.
D'ailleurs, c'est l'hubris. Hein.
Voilà,
l'hubris,
oui.
Qui se retrouve dans des expressions idiomatiques comme fourrir, mourir de rire.
Voilà, c'est ça.
Et c'est pas uniquement à la voilà. Farce, mais quelque chose de...
C'est aussi la raison pour laquelle je substituais à l'expression de rire à gorge déployée l'expression de rire à gorge tailladée. Parce que là, il me semble que y a quelque chose qui relève de cet effet de lecture, du moins.
Oui.
Alors, deux choses. D'abord, le glissement de humour vers rire. Il faut vraiment dissocier le mot rire, à mon avis, du mot humour. Et tu employais vraiment humour par moment et rire par moment. Moi, j'ai envie de dire humour et dignité. C'est un mot qui n'est pas venu. Parce que l'humour, c'est celui de la victime qui se redresse en prenant elle-même la dérision sur elle-même qui lui permet de se relever. Donc humour et dignité, je pense qu'il y a ça aussi dans l'humour de Volodine. Et une autre chose, je crois que le rire, à mon avis, est aussi une manière de pulvériser toute tentative de pédagogisme. C'est-à-dire de donner la leçon. Il n'y a pas de leçon.
Oui, oui,
ça pulvérise cette tentation.
Oui, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure sur le sens officiel d'un texte qu'il s'agirait de transmettre. Il y a effectivement une portée, je dirais, antididactique,
enfin,
qui est là pour contrevenir l'effet d'une lecture didactique envisageable du texte. Effectivement, le texte comme œuvre bien pensante.
Franck ?
Oui, ça nous ramène un petit peu en arrière. J'ai beaucoup apprécié la façon dont Bruno est parti des soubassements, ce qu'on pourrait appeler les tréfonds nauséeux du rire, parce que ça me semble quand même quelque chose de très important. Et là, je me situe à la fois dans la perspective du texte et celle du lecteur. Ce que tu as dit m'a beaucoup fait penser en fait à un texte un peu perdu de vue de Julia Kristeva, avant le génie féminin, c'est-à-dire Pouvoir de l'horreur, où justement on croise des références qui ont été nommées, si ma mémoire est bonne, il doit être question de Sade, de Lautréamont et de Céline.
Oui,
et là, je me suis demandé justement cette notion d'abjection ou d'abject qui est omniprésente dans ce texte christévien, si elle n'allait pas justement tout à fait dans le sens de ce que tu as démontré, en tout cas dans ta réponse à Pierre Ouellet et dans le cadre d'une partie de ta communication intérieurement.
Oui, tout à fait. Écoute, je vais rajouter cette référence pour les actes.
Oui, Frédéric, pardon, tu voulais.
C'était juste que, en fait, j'allais faire une réflexion dans le même sens que Madame sur qui était une sorte de discussion avec la proposition d'Antonin tout à l'heure. Effectivement, je me demande si effectivement le rire est une façon de mettre de distancer, mais ça peut être aussi, c'est pas forcément exclusif de la sympathie vu que c'est les personnages qui ont déjà cette distance avec eux-mêmes et que donc du coup on est complice du en riant, on est complice du personnage qui rit de soi.
Enfin, est-ce que ce sont ces personnages qui ont cette distance avec eux-mêmes ou est-ce que ce sont des personnages auxquels on prête cette distance à eux-mêmes par le biais de cette figure du narrateur peu crédible ou à la parole incertaine? Voilà, il y a effectivement là tout un jeu, c'est sûr.
Jean-Pierre Vidal.
Je reviendrai à cette question, si vous voulez bien, de l'humour dans son effet déstabilisateur sur le lecteur, y compris et surtout, dirais-je, sur le lecteur sympathique. ça aussi, je vois ça chez l'autre Hermon, hein, cette volonté de dire constamment, eh bien, tu as ri, eh bien, tu as tort, ou bien, tu n'as pas ri, et tu as eu tort, et, etc., oui. etc. Et ça m'amène à un autre procédé qui est en rapport avec la mise en abîme. C'est par exemple le passage que vous avez cité, qu'on trouve aussi des équivalents chez l'autre Hermon, hein, le passage que vous avez cité de... Ben d'abord, il faut que je compare à ce que vous avez dit, l'apparition progressive de la valeur de couleur jusqu'à ce que le terme soit utilisé. Et la même chose pour l'arracheur de dents. Je crois qu'il y a des moments aussi dans l'œuvre de Volodine où l'on voit s'approcher tranquillement ce mot, mais qui n'est jamais dit. Je vous donne un exemple dans ce que vous avez analysé, l'opéra qui permet de cacher... Enfin, d'éteindre les bruits de la torture, les sons de la torture. Ça, c'est une mise en abîme particulièrement perverse, dans la mesure où tout amateur d'opéra aura compris que c'est une invagination, parce qu'il y a au moins deux opéras dans lesquels on torture, dans l'opéra, c'est Tosca et Turandot. Et tout ça se réunit sous le nom de Puccini. Quelque part, il y a quelque chose de très inquiétant. Parce qu'on voit, on nous dit... qu'on aurait dû voir ce qu'on avait été trop lent à voir, et par ailleurs, on nous amène jusqu'au seuil de presque voir quelque chose que le texte ne finit par ne pas nous dire.
Oui, et puis si on propose cette lecture d'un effet de réverbération, oui. y a aussi, me semble-t-il, cette mise en lien entre l'espace qu'est l'opéra, et puis surtout cette chambre d'écho que j'ai pu évoquer, et qui confère sa polyphonie un peu hétéroclite à l'ensemble des récits.
Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, encore une fois merci, et on a une demi-journée pour se remettre.